Bonsoir à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous effectivement. Merci Jacques, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambouni de Top Congo FM va sans doute nous rejoindre d'ici là en attendant. Amin Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amin.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée. Nous retrouvons Amdine Si dans l'Ohio ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de l'Afrique.
Merci à tous de votre présence. Nous commençons avec les finales des Coupes africaines. Al Ahly Espérance de Tunis en Ligue des Champions, Raja Casablanca AS Vita Club en Coupe CAF. Les demi-finales ont donné leur verdict la semaine dernière. En Ligue des Champions, justement, l'Espérance sportive de Tunis s'est qualifiée pour la finale grâce à une victoire sur le Primeiro de Agosto 4-2. Amine, battu hein, sans marquer à l'aller 1-0. L'Espérance n'avait pas le choix que de cartonner au match retour, mais les sang et or ont quand même eu du mal, 65% de possession de balle pour les Angolais.
Ils ont surtout dû cravacher parce que l'équipe angolaise a montré un visage conquérant même au match retour. Les Angolais n'ont pas cherché à fermer le jeu, ils ont systématiquement cherché à jouer de l'avant. Et ça a considérablement gêné l'équipe tunisienne. L'équipe tunisienne qui a quand même bénéficié de quelques largesses arbitrales. Il faudrait quand même le préciser parce que M. Sikazoué s'est tout de même trompé lorsqu'il a refusé un but à l'équipe de Primeiro de Agosto qui aurait pu changer beaucoup de choses lors de cette demi-finale retour. On peut dire qu'au métier, à l'agnac, à certains paramètres qui font partie un peu de l'ADN du football tunisien, l'Espérance se retrouve dans une nouvelle finale africaine avec l'espoir de retrouver un titre qu'elle n'a plus conquis depuis de très nombreuses années et qui de l'Espérance, c'est un peu l'ossature de la sélection tunisienne de football. C'est des joueurs qui sont rompus aux joutes africaines, mais face à eux, ils ont trouvé une équipe du Primeiro de Agosto qui n'avait aucun complexe, qui avait surtout l'avantage et une dynamique de confiance après avoir éliminé le tout-puissant Mavembe, mais cela n'a pas suffi. Le public présent a poussé derrière son équipe. Il y a eu quelques fumigènes qui ont un peu affixé l'ambiance. On peut dire que tous les éléments étaient contre l'équipe angolaise, y compris l'homme en noir qui est pour beaucoup dans cette qualification de l'Espérance sportive de Tunis.
Merci bien. Amine, alors Élisée, Amine le disait tout à l'heure, hein, ce but refusé aux Angolais. Quand même, la belle aventure hein, africaine des Angolais de Primeiro de Agosto a été stoppé net par les Tunisiens en demi-finale. Et donc, on n'a pas encore Élisée qu'on a perdu de vue, mais d'ici là, on l'aura. Ah, ok, Élisée est là. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir, Yacouba, et bienvenue au Bénin.
Merci bien. Et donc, je le disais, la belle aventure africaine des Angolais du Primeiro de Agosto a été stoppé net par les Tunisiens en demi-finale. Amine évoquait notamment ce but hein, refusé aux Angolais qui aurait pu changer quand même l'issue de ce match-là.
Oui, Yacouba, un arbitrage catastrophique. Il faudra suivre le match pour remarquer que l'arbitre est passé complètement à côté de ce match. Sikazoué, hein, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait partie des meilleurs sifflets du continent, mais a déçu complètement. Il a changé l'issue de cette rencontre. C'est bien sûr dommage hein, de voir cet arbitre permettre... Cet arbitre qui a permis d'ailleurs, j'allais dire, aux Tunisiens de se qualifier, puisque il leur a fallu d'affecter ce but, marqué sur corner, on connaît où le gardien de but de l'Espérance de Tunis était fautif hein, sur l'action, puisqu'il a relâché le ballon. Personne ne l'a d'ailleurs touché, il a relâché le ballon. Puis l'attaquant angolais a propulsé simplement le ballon au fond des filets. Et à notre grande surprise, eh bien, c'est Casula qui fait une faute imaginable, hein, ce qui a permis aux Tunisiens du quoi, puisque dans la foulée, ils ont inscrit le but égalisateur et puis le but qui leur a permis d'avoir confiance et puis marquer le but qui va leur permettre justement de disputer la finale vendredi prochain contre le club le plus titré du continent, le National du Caire. C'est vrai que les Tunisiens ont dominé largement la rencontre puisqu'ils étaient bien poussés par le public, ce public qui est venu massivement accompagner le club tunisien qui est à la recherche de ce trophée depuis des années, puisque c'est une grande formation aussi du continent, mais l'équipe pouvait se qualifier sans l'aide de l'arbitre. On ne va jamais cesser de le dire. C'est vraiment dommage, puisque une semaine plus tôt, on avait assisté hein, à ce match entre le Bénin et l'Algérie à Cotonou, où l'arbitre a simplement donné plus d'une dizaine de minutes d'arrêt de jeu.
Élisée qui trouve le moyen de nous ramener à ce match.
Allô, Yacouba?
Oui, Élisée, j'ai dit, vous trouvez le moyen de nous ramener à ce match, Algérie-Bénin, en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, je précise.
Donc, je le disais tantôt que une semaine plus tôt, on a vu que l'arbitre namibien, Pava, qui a donné plus d'une dizaine de minutes d'arrêt de jeu, donc on ne va jamais cesser de critiquer l'arbitrage africain, voilà, c'est dommage, mais... L'expérience tient sa finale et en face, ce sera encore du loup, puisqu'il s'agit du national du Caire entraîné par un certain Patrice Caperon.
Merci bien, Élisée. On vous a bien entendu. Hein. La finale, vous l'avez dit, opposera deux clubs maghrébins, Al Ahly et l'Espérance de Tunis, le vendredi 2 novembre hein, pour le match aller. Amine, je reviens à vous. C'est un derby chaud et bouillant hein, qui s'annonce entre ces deux clubs.
Disons, c'est une confrontation 100% nord-africaine. On revient un peu à cette tradition qui veut que les équipes d'Afrique du Nord, et notamment Ligue des Champions, puissent dominer avec l'autorisation des clubs de la RDC. Et c'est le cas puisqu'il y avait une demi-finale 100% nord-africaine entre l'Entente de Sétif et l'ANI. Prime à nouveau à l'expérience, au métier, au savoir-faire de cette équipe égyptienne qui s'est voyagée. Ils avaient remporté le match aller 2-0. Ils ont résisté pendant très longtemps aux assauts d'une équipe algérienne beaucoup plus entreprenante au match aller. Il faut dire que l'Entente de Sétif a bénéficié d'une multitude d'occasions pour pouvoir changer le scénario de cette demi-finale. Et notamment en première mi-temps, le gardien Chemaoui a fait un sans faute. Il y a eu beaucoup de maladresse dans le dernier geste du côté de l'Entente sportive de Sétif. Et sur un contre, en début de seconde mi-temps, l'équipe égyptienne a pu prendre l'avantage. 1-0, ça a obligé les Algériens à marquer 4 buts. Ils ont réussi à moitié leur mission puisqu'ils sont parvenus à égaliser sur une bourre du gardien égyptien, puis à prendre l'avantage en toute fin de rencontre, mais c'était trop tard. L'équipe de l'Entente de Sétif a tenté un barreau d'honneur. Elle s'en sort avec les honneurs et quitte la compétition dans le dernier carré parmi les 4 meilleures équipes de cette C1 africaine. Mais encore une fois, l'ALI est une équipe avec de nombreux internationaux. C'est un gardien de but qui était un rempart très sûr. Chinaoui, qui était le gardien titulaire lors de la dernière Coupe du Monde. Ahmed Fetri, c'est le latéral droit de cette équipe égyptienne. Le centre de la défense, ce sont des joueurs qui sont rompus aux joutes africaines. Et puis, au milieu terrain devant, il n'y a encore que des internationaux, y compris le Marocain Walid Azaro, qui avait été pendant cette saison le fer de lance de cette attaque de l'Ali d'Égypte. Si sur le banc de touche, vous avez ensuite quelqu'un qui est rompu aux joutes africaines, comme le français Patrice Carteron, vous avez, je dirais, la recette idéale pour ramener le titre, un titre au cours duquel, je dirais, un titre important pour l'équipe de l'ALI, puisque l'ALI a été finaliste la saison dernière et l'ALI a une revanche à prendre, une envie de se racheter auprès de son nombreux publics. Il faut se dire que nous avons droit à nous sommes en face d'une institution, un club qui est plus que centenaire, un club qui depuis 1982 est habitué à gagner la Ligue des Champions, pour preuve les 8 titres qui figurent au palmarès de ce petit jeu.
Merci bien, Amine. Alors, sans transition, hein, en Coupe CAF, la finale opposera l'AS Vita Club de la RDC au Raja Casablanca le vendredi 23 novembre au complexe sportif Mohamed V de Casa à 19h temps universel. Et le match de tour est prévu pour le 30 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Le club congolais a battu Al-Masri 4-0 tandis que les Marocains ont écarté Enyimba 2-1. En demi-finale, retour de la petite Coupe d'Afrique, le club congolais de... L'AS Vita Club a été le premier à valider son billet pour la finale. Au passage, Eddy Ngoyi et Momo, auteur d'un doublé bien sûr, a ravi hein, la vedette à pas mal de joueurs. À l'aller, les Dauphins Noirs avaient tenu en échec les Aigles vers 0-0. Thierry, merci de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Alors, ce fut un match hein, quand même intense et complet pour V Club.
Un match intense, un match très très plaisant à voir entre ces deux formations déterminées, chacune de son côté à se qualifier pour la finale après le nul vierge qui a sanctionné le premier acte de cette demi-finale. Mais la détermination et le réalisme étaient plutôt du côté des Verts et Noirs de V Club qui ont réussi, comme lors des précédentes étapes, à faire le plein à domicile et à l'emporter. Eddy Ngoyi Momo, vous l'avez évoqué, qui n'avait pas encore marqué le moindre but dans cette compétition et qui revenait d'une suspension, lui qui était expulsé lors des précédentes véritable de cette compétition. Lui qui en était à sa toute première titularisation à la maison, eh ben, il a fait la surprise. C'était la surprise du chef. Il a convaincu Florent Ibengué en inscrivant ce doublé après que Jean-Marc Makoussou Moundele et Moukoko Batezadio aient complété le festival. Le club a proposé un football plaisant face à des Égyptiens qui, à un moment donné du match, étaient perdus. Rappelez-vous, après le troisième but, ils ont arrêté de jouer, ils sont allés sur leur banc, ils ont refusé pratiquement pendant quelques minutes de remonter sur le terrain. Et au coup de sifflet final, ce que les Égyptiens ont fait au stade des Martyrs était simplement intolérable, inimaginable. Ils se sont mis à casser les panneaux publicitaires de la Confédération africaine de football et tout ce qu'ils avaient trouvé sur leur passage. En tout cas, c'est un comportement qui a été déploré ici, mais sur l'ensemble du match, les Verts et Noirs de l'AFC Club ont largement mérité leur victoire et leur qualification pour la finale. En finale, ils vont rencontrer une formation de Raja qu'ils avaient déjà affrontée, rappelez-vous, lors des précédentes étapes de cette même Coupe de la Confédération. V-Club avait réussi à tenir les Verts et Blancs du Raja en échec, 0 but partout à l'aller chez eux, avant de l'emporter 2-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Est-ce un signe? En tout cas, Florent Ibengué est au moins averti. Hein, il va affronter en finale une formation qu'il connaît déjà et qu'il a eu affrontée à deux reprises. Donc, il est prévenu. Et lui et ses poulains qui restent sur une très, très, très bonne dynamique et qui courent après la finale ratée en Ligue des Champions en 2014 derrière une deuxième étoile africaine de l'association sportive V-Club.
Merci bien, Thierry. Alors, Jules, ce match, hein, V-Club Al Masry, Thierry le disait tout à l'heure, a laissé des traces, notamment avec les dégâts perpétrés par les Égyptiens à la fin de la rencontre, s'en prenant notamment aux panneaux publicitaires aux abords de la pelouse et aux vestiaires du stade, hein, des Martyrs pour protester contre l'arbitrage. Ce sont des actes, hein, qui ne noient pas le football africain. Il y a bien d'autres moyens pour réclamer.
Bien sûr, surtout que actuellement, tout se fait en mondiovision. C'est pas le football des années héroïques où on pouvait se permettre de faire des règlements de compte à huis clos. Mais là, on se donne un spectacle. Et je crois que l'Afrique ne le mérite pas dans la mesure où, sous d'autres cieux, nous avons des joueurs de très grande valeur qui tutoient le monde pratiquement. Donc, c'est regrettable, mais on ose penser qu'il s'agit surtout d'une très grande frustration pour ces supporters qui pensaient que leur équipe était à la porte de la finale et peut-être qu'ils espéraient une victoire en fin de compte.
Alors, Amdine, on se rappelle, hein, que la CAF a décidé de l'usage de l'arbitrage vidéo pendant les finales des coupes africaines. Ce serait peut-être, hein, ce système d'arbitrage sera donc la bienvenue sans doute pour les finales à venir.
Tout à fait, Yacouba, parce qu'en Afrique, il faut le dire et le reconnaître, l'arbitrage pose problème. C'est le maillon faible du football africain, l'arbitrage. Si on regarde ce qui s'est passé lors du match les Angolais du Primeiro Augusto, on se rend compte que vraiment, c'était un scandale. C'est un scandale. On a vu également le comportement des Égyptiens. Ça ne donne pas les Africains. Donc, vivement l'arbitre à vidéo, parce que en Afrique, les arbitres pensent que il faut privilégier une équipe au détriment d'une autre équipe, alors que c'est pas ça. Le sportif doit priver surtout l'aspect sportif, donc les meilleurs doivent gagner. C'est vraiment regrettable. Donc la CAF a bien fait quand même de faire un arbitrage vidéo lors des finales, mais il faut également sévir pour sanctionner les fautifs, parce que on a vu ce qui s'est passé avec le match du Sénégal, l'arbitre de la tête qu'on avait suspendu. Mais depuis lors, on ne voit pas d'autres arbitres suspendus. Sinon, on en parle. Donc, vivement, l'arbitrage vidéo, je ne dis même pas pour la finale seulement, mais elle est tellement importante, les compétitions comme la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Donc, on doit vraiment mettre des arbitres de valeur, mettre l'arbitrage vidéo pour qu'on n'arrive plus à voir ce qui s'est passé lors du match contre le 1er d'Agosto, parce que c'est un scandale pour moi.
Dans l'autre demi-finale, les Marocains du Raja Casablanca ont décroché leur place en battant les Nigériens de Nimba. Amine, ils ont toutefois attendu les arrêts de jeu de la première période pour trouver la faille.
trouver la faille et confirmer la victoire du match aller, puisque le Raja était revenu, est devenu la première formation marocaine à remporter une victoire au Nigeria. Le Raja qui s'est qualifié beaucoup plus paisiblement et de manière beaucoup plus fair-play que lors de la presse de la demi-finale qui avait lieu à Kinshasa. L'équipe n'a pas montré son meilleur visage, mais elle réussit, elle est dans une dynamique où la gagne, où les victoires s'enchaînent. Cette formation du Raja qui avait démarré la phase de groupe de manière assez pataude, assez nonchalante et qui a su monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Il y a eu une seule rature, la défaite face à l'équipe de la Vita Club en phase de groupe. Mais sinon, c'est une formation assez complète dans toutes ses lignes et qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment avec un mix entre les joueurs expérimentés et les joueurs jeunes. C'est-à-dire vous avez d'un côté le métier, le savoir-faire, le vécu, et de l'autre l'enthousiasme, et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de cette équipe du Raja de Casablanca. But de Hadraf dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un deuxième but malencontreusement marqué en toute fin de rencontre par un défenseur nigérien qui voulait empêcher que le ballon arrive à l'avant-centre Mohsine Ajoré. Un sursaut d'orgueil dans les arrêts de jeu de la part d'une équipe des Nimba qui s'est battue avec ses moyens, qui a essayé de malmener cette équipe du Raja, notamment lors des 20 premières minutes de la rencontre où ça aurait pu basculer du côté nigérian si ce n'est l'intervention du gardien Anes Niti. Aujourd'hui, le Raja de Casablanca joue sur 4 tableaux puisque dans quelques jours, l'équipe disputera la demi-finale de la Coupe du Trône, la Coupe du Maroc. L'équipe est engagée en Coupe arabe, elle vient de ramener un match nul cet après-midi d'Ismaili en Égypte. Et puis, il y a également le titre de champion du Maroc au cours d'une saison qui est assez importante pour l'équipe du Raja de Casablanca. Ça met de côté un peu les problèmes financiers du club casablancais, un club endetté qui a besoin de la main des compétitions africaines pour pouvoir se renflouer. C'est en bonne voie, en condition bien évidemment de franchir le dernier obstacle, d'arriver à vaincre l'équipe de la Vita Club. On rappelle que le Raja n'a plus gagné le moindre titre africain depuis la saison 2002-2003.
Merci bien, Amine. Ce sera aussi la première finale de la Coupe de la Confédération pour l'AS Vita Club. Même si le club congolais a déjà disputé celle de la Ligue des Champions à 3 reprises, victoire en 73 et défaite en 81 et en 2014. Thierry, 4 ans après, donc, V Club retrouve une finale de Coupe d'Afrique. Ça s'annonce quand même assez serré avec ce qu'Amine vient de dire tout à l'heure, avec ses grandes attentes aussi de la part du Raja.
Très, très grandes attentes, et pour les Rajaouis, et pour les Chinois de l'association sportive V Club. Hein. Il faut vous rappeler justement qu'en 2014, ils n'avaient pas du tout digéré cette défaite en Ligue des Champions, sans pour autant perdre le moindre match. Il y avait 2 buts partout ici à Kinshasa, puis 1 but partout en Tunisie. Donc les V Clubiens n'ont pas encore digéré. Sui Bengue, justement, pour ce qui était sa deuxième saison à l'époque, cette finale perdue, ils veulent se racheter, ils veulent remporter et succéder surtout à un autre format, à un autre club de la RDC, le tout-puissant Mazembe Ngbeber, qui soutient l'association sportive des clubs aussi. Les Vecubiens veulent se racheter et, comme je l'avais dit, tiennent absolument à ajouter à leur première étoile de 73, qui a plutôt vieilli, une deuxième cette Coupe de la Confédération qui n'ont pas encore remporté. Ici, à Kinshasa, la mobilisation est déjà générale. Les Verts et Noirs ont l'avantage, en plus de disputer la finale retour, ici, à la maison, au Stade des Martyrs, un Stade des Martyrs qui leur a souri cette saison. Ils ont fait le plein de points ici depuis le début de cette Coupe de la Confédération. Les Verts et Noirs sont mobilisés au niveau du comité et V-Club en championnat et restent sur 3 victoires en 3 rencontres. V-Club qui est tenant du titre également au niveau du championnat de la République démocratique du Congo. Donc les Verts et Noirs ont se sont fixés comme objectif absolument de remporter cette Coupe de la Confédération face à une formation qu'ils ont l'avantage de connaître, qu'ils ont l'avantage d'avoir affronté dans cette même Coupe de la Confédération. Florent Ibenge et ses poulains ont tous les moyens pour cela et ils vont se battre pour y arriver en tout cas.
Merci bien Thierry. Vous suivez Sporama, suivez VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. En Europe, ce fut un week-end de classico. D'abord en Espagne, c'était un classico entre le Real Madrid et le Barça. Le match le plus suivi au monde, le score est connu et sans appel, 5-1 pour le Barça au Camp Nou. Alors Jules, le score final a atteint des niveaux quand même scandaleux. Une joie pure hein, pour les Barcelonais et un profond abattement pour les madridistes.
Oui, mais il faut dire que c'est une tendance qui n'a pas commencé et cette année. Depuis quelques saisons, le Real, malgré ses réussites en dehors des frontières espagnoles, peine beaucoup dans les classicos face à Barcelone. On se souvient que l'année passée, à Madrid, c'était aussi une défaite de 3-0. Et ma foi, les meilleures performances souvent du Real ont été des nuls et jouées surtout à Barcelone après avoir perdu un match à Madrid. Bon, donc là, à ce niveau, je pense que c'est une surprise, une demi-surprise, mais et c'est surtout l'ampleur du score encore qui choque parce que, ma foi, pour un triple champion d'Europe, vraiment, c'était mal engagé, probablement mal engagé ce classico. Et quand on sait que cette équipe aussi a perdu son entraîneur, a perdu son joueur vedette, et pas n'importe qui, et se retrouve aussi dans le doute pour le moment, et peut-être c'est ça qui explique l'ampleur du score devant une équipe de Barcelone dont le point fort a toujours été le jeu collectif.
Alors, Élysée, le Barça, hein, souvent en difficulté lors des rares absences hein, de Messi, a su quand même tirer son épingle du jeu cette fois-ci. On rappelle que le Classico s'est joué sans Messi du côté de Barcelone et sans Ronaldo, bien sûr, parti à la Juve du côté du Real Madrid.
Oui, Yacouba, il faut le souligner, c'est vrai que Barça a joué sans Lionel Messi, mais Barça est une équipe qui déjà a connu quelques bons recrutements hein, par rapport à cette équipe du Real qui est pratiquement en fin de cycle hein, parce que ce sont les mêmes joueurs hein, qui ont remporté 3 fois la Ligue des Champions. Il est temps de chercher changer un peu l'encadrement tech ou bien la direction a voulu faire confiance à ces jeunes-là hein, qui devraient hein, se démontrer cette saison, notamment Asensio ou encore Lucas Vázquez, mais ils tardent hein, à trouver une place de titulaire dans cette équipe, ce qui a fait que je suis en train de dire que le fait de ne pas recruter hein, depuis le départ de Cristiano Ronaldo est en train de jouer un peu sur cette équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui est en fin de cycle, il hein, faut le souligner, face à FC Barcelone qui a de la confiance hein, dans les jambes, notamment après avoir réalisé hein, de très bons scores face à FC Séville le week-end dernier pendant que le Real perdait hein, contre un petit de la Liga. Ça montre déjà que psychologiquement, hein, les Catalans ont déjà pris un pas hein, dessus. L'équipe de Madrid peine ces temps-ci, même en Ligue des Champions, voire on a vu cette défaite contre le club russe hein, de Spartak Moscou, difficilement vainqueur contre le Bate Borisov. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. D'autres vont dire que l'entraîneur ne maîtrise pas forcément l'effectif, mais il faut dire que, franchement, en tout cas, c'est mon point de vue, le Real aurait pu recruter Eden Hazard cette saison et bien d'autres bons joueurs, hein, soit de permettre à cet effectif-là d'avoir une très bonne transmission. C'est ce qui n'a pas pu être fait par le président du club aujourd'hui. Le Barça domine encore ce classique et il y a longtemps qu'on n'a plus vu un score pareil hein, face à cette équipe que cette équipe du Barcelone a infligé au Real. Une fois encore, le Barça a infligé la Manita, bien sûr, à son éternel rival.
Merci bien, Élysée. On va rappeler que le dernier match du Real en Ligue des Champions, c'était contre le Vitória Plzeň. Alors, ce net succès permet au Barça, premier avec 21 points, de conserver les commandes du classement, tout en reléguant à 7 longueurs un Real Madrid en pleine dérive, 9e avec 14 points. Amdine, très rapidement, en 20 secondes, les joues de Rulén Lopetegui sont comptés à la tête des Merengues.
Tout à fait, Yacouba. On annonce même l'arrivée de l'Italien Antonio Conte. Donc, il faut dire que il n'a pas su remplacer un certain Zidane. Et le Real également est orphelin de Ronaldo. Bon, je pense que l'entraîneur il est venu au mauvais moment, mais il va payer les pots cassés. C'est comme ça le football. C'est regrettable, mais c'est comme ça, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Si dans l'Ohio, ici aux États-Unis, ce sera votre mot de fin. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission Sporama. On vous dirait également merci à Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Merci à Élysée Oumpatine depuis Boïcon, pardon. Thierry Kamboundi était en direct depuis Kinshasa. Amine Birouk était avec nous depuis Casablanca. L'émission a été assurée aujourd'hui par Yacouba Ouédraogo, Firmé Koya Ouéda et Michel Joseph à la réalisation. Zornaniak Vostek à la console. Merci à vous de l'avoir suivi. Sporama revient lundi prochain.